Bienvenue sur
Les Ados de la Radio,
présenté par
Sarah,
Gabriel,
Cléa,
Alphonse,
Raphaël,
Chloé,
Lindsay.
Les Ados de la Radio.
Bonjour à tous et bienvenue sur Les Ados de la Radio. Aujourd'hui, on vous a préparé une émission variée en lien avec le collège, entre nature, actualité, histoire et société. Et pour commencer en douceur, quoi de mieux que de parler du retour des beaux jours? Raphaël nous emmène à la découverte des fruits et des fleurs du printemps. Bonne écoute!
Merci Cléa. Fleurs de printemps, pourquoi le printemps est-il une saison du rafraîchissement? Le printemps est connu comme une période de renouveau et de rajeunissement. Une période pendant laquelle la Terre se débarrasse de son manteau d'hiver pour amasser la chaleur et la vivacité d'une nouvelle saison. Cette transformation n'est nulle part plus évidente que dans l'éclosion des fleurs printanières, du bleu vibrant des scyllas au doux murmure du sol. Ces fleurs résument l'essence du printemps comme saison ultime de rafraîchissement. Nous examinons ici les raisons de ce renouveau saisonnier et le rôle central que jouent les fleurs printanières dans ce cycle du rajeunissement. À mesure que les températures augmentent progressivement et que les jours s'allongent, les graines et les bulbes dormants reprennent vie, initiant les premiers signes du renouveau printanier. Cette période marque une transition significative entre les paysages arides et l'hiver et la verdure luxuriante du printemps. Ces fleurs telles que les scyllas et les pussywollows sont parmi les premières à annoncer le changement saisonnier, ce qui les rend essentiels pour tous ceux qui cherchent à ajouter de la vie et de la couleur dans leur jardin ou à leur intérieur. Après des mois d'hiver, alors que l'essence rafraîchissante du printemps et l'éclosion des fleurs marquent une période de renouveau de beauté naturelle, leur présence rapide appelle l'impermanence des saisons. Les fleurs de printemps. Alors voici des fleurs de printemps que j'ai chez moi ou que vous avez peut-être chez vous. Par exemple la jacinthe. Ou alors la fameuse tulipe qui, dans tous les jardins, rayonne et dans toutes les bouches surtout. Puis la daphnée, une fleur un peu plus cachée, on va dire, mais très jolie aussi. Si vous en croisez, vous avez énormément de chance. Le muguet, bon, traditionnellement au mois de mai. Hein. La narcisse. Enfin, maintenant, vous avez tout ce que vous voulez. Alors, il y a les narcisses, il y a les canas, les dahlias. Aussi, il y en a tellement que j'aime noter que j'arrive plus à me relire. Bref. Pour tout dire, le printemps est une saison au milieu d'une couleur. Alors, parlons maintenant des fruits de printemps. Avril est le mois décisif, celui où la saison prend réellement forme, car la fraise s'installe avec la gariguette en tête, puis la sifflorette et des variétés précoces. Il y a aussi la rhubarbe, les agrumes tardifs encore brillants comme les citrons, les pomelos, les kiwis, les pommes, etc. Les cerises, bien sûr. Allez, bédarieux. La framboise, la mûre, la figue. Donc, le printemps est une saison où tous les fruits et les saveurs s'ajoutent à nos palais. La langue s'éveille à la saison du printemps. Notre nez aussi, d'ailleurs. Donc, pour finir, le printemps est une trop belle saison. Alors, mangez des fruits et profitez-en.
Merci Raphaël pour cette belle bouffée de printemps. Nous allons maintenant voyager à travers l'histoire, puisque Chloé va aborder un thème qu'elle a choisi pour son oral du brevet. Comment, en Italie fasciste, l'image du corps parfait était utilisée à des fins politiques?
Dans les régimes totalitaires, le corps peut devenir un outil de propagande et de contrôle. Il ne s'agit pas seulement d'apparence, mais d'un moyen d'imposer des idées à toute une société. On peut donc se demander comment Benito Mussolini met-il en avant la représentation du corps parfait de l'homme et de la femme dans l'Italie fasciste. Pendant cette période, le régime impose un idéal précis. L'homme doit être fort, viril et prêt à combattre, tandis que la femme doit être saine et destinée à la maternité. Pour diffuser et contrôler ces modèles, le régime utilise le sport, la propagande, l'art et la science. Le sport est un élément central dans l'Italie fasciste. Il ne sert pas seulement à se divertir, mais à former des citoyens disciplinés et prêts à défendre la nation. Le régime met en place de nombreuses organisations obligatoires pour encadrer la jeunesse, notamment les groupes universitaires fascistes. Les jeunes Italiens doivent pratiquer une activité physique régulièrement. Cela permet de développer leur force, mais aussi leur obéissance. Benito Mussolini se met lui-même en scène, comme un modèle, en affirmant être le premier athlète d'Italie. Cela montre que même le chef participe à cette valorisation du corps. Pour les femmes, le sport est autorisé, mais limité. Elles doivent rester féminines et leur pratique sportive ne doit pas nuire à leur rôle principal, devenir mère. Le sport féminin est donc encouragé uniquement pour améliorer la santé et la natalité. En plus de former les corps, le régime montre cet idéal grâce à la propagande. Un exemple important est le Statue dei Marmi, où l'on trouve de nombreuses statues d'athlètes. Ces statues représentent des hommes nus, musclés et harmonieux. Elles symbolisent la force et la perfection. Les affiches et les médias diffusent aussi ces images. On y voit des hommes courageux et puissants, souvent dans des postures héroïques. Pour les femmes, les représentations sont différentes. Elles sont montrées comme des mères fortes et en bonne santé. Leur corps est valorisé, surtout pour sa capacité à donner la vie. La propagande sert donc à imposer un modèle de corps à toute la population. Pour discipliner le corps des femmes, le régime met en place des institutions destinées à encadrer la maternité et l'enfance, comme l'Institut national de la maternité et de l'enfance. Le régime attend des femmes qu'elles soient saines, fortes et fertiles, pour donner naissance à des enfants robustes et en bonne santé. Leur corps est donc surveillé et éduqué pour répondre aux objectifs du fascisme. Enfin, le corps ne se contente pas de proposer un idéal, il l'impose. Certains groupes sont rejetés car ils ne correspondent pas à cet idéal. Ce sont les contre-modèles, les juifs, les homosexuels et les éthiopiens. Par exemple, la propagande raciste dévalorise les éthiopiens. Des livres pour enfants font en effet des éthiopiens et des autres peuples colonisés par l'Italie des peuples inférieurs, comme le Colonier italien est publié en 1931. Quand sont décidées les lois raciales, le régime revendique fièrement l'exclusion des juifs. Les homosexuels, quant à eux, sont rejetés car ils ne correspondent pas à l'image de l'homme viril. Même les intellectuels sont critiqués car ils sont vus comme faibles et moins utiles que les hommes forts physiquement. Pour conclure, Benito Mussolini met en avant la représentation du corps parfait grâce au sport, à la propagande et au contrôle de la population. L'homme doit être fort et prêt à combattre, tandis que la femme doit être une mère en bonne santé. Le corps devient donc un outil central pour diffuser l'idéologie fasciste. Aujourd'hui, même si nous ne sommes plus dans un régime totalitaire, il existe encore des modèles de corps idéaux diffusés par les médias et les réseaux sociaux comme Instagram. Cela montre que la pression sur le corps existe toujours, mais sous une autre forme.
Merci Chloé pour cet éclairage historique. On reste sur le thème de la politique, mais dans l'autre côté de l'Atlantique, avec Alphonse, qui nous propose une chronique sur Donald Trump, sa politique et sa relation particulière avec les médias. À toi Alphonse.
Le Late Show de Stephen Colbert, l'émission incontournable de la télévision de fin de soirée aux États-Unis, prendra fin en mai 2026. On a annoncé jeudi 17 juillet 2025, l'humoriste et CBS, la chaîne qui diffuse l'émission, en froid à propos d'un accord à 16 millions de dollars conclu par la chaîne avec Donald Trump. CBS a qualifié l'annulation de l'émission comme une décision purement financière dans un contexte difficile pour la fin de soirée, et a insisté sur le fait que cette décision n'était en aucun cas liée aux performances de l'émission, à son contenu ou à d'autres questions concernant Paramount, la société mère. Paramount, qui essaie depuis un an de conclure une fusion avec le studio de cinéma Skydance, une opération qui doit valoriser le nouvel ensemble à environ 28 milliards de dollars. Cette fusion nécessite l'approbation de l'administration Trump. Selon l'Institut Nielsen, dans la catégorie des shows dont la diffusion débute après 23h30, son émission dominait largement la concurrence au premier trimestre 2025, avec près de 2,4 millions de téléspectateurs, ce qui en faisait l'émission la plus regardée de sa catégorie. Nielsen est un leader mondial dans la mesure d'audience, des données et de l'analyse qui façonne l'avenir des médias. Le président aurait déposé une plainte contre CBS à cause d'une interview de Kamala Harris dans l'émission 60 Minutes, laquelle soi-disant remontait en faveur de la candidate démocrate, c'est-à-dire largement sa faveur. Paramount a accepté début juillet de verser 16 millions de dollars au président à cette affaire, une décision que M. Colbert a vivement critiquée dans son émission diffusée lundi, la qualifiant de gros pot de vin. CBS a annulé l'émission de Colbert seulement 3 jours après qu'il ait dénoncé la société mère de CBS, Paramount, pour son accord de 16 millions de dollars avec Trump, un accord qui ressemble à de la corruption, a écrit une sénatrice américaine sur X. L'Amérique mérite de savoir si son émission a été annulée pour des raisons politiques, a-t-elle affirmé. Cette affaire montre donc que les États-Unis sont devenus, avec le président actuel, un pays où tous s'efforcent d'être en bonne relation avec Donald Trump pour ne pas disparaître sous les coups de pression de l'administration Trump.
Before we start the show, I want to let you know something that I found out just last night. Next year will be our last season. The network will be ending The Late Show in May.
Merci Alphonse pour cette analyse. On continue justement sur le thème des médias, mais cette fois-ci du côté des jeunes. Pourquoi sommes-nous si accros aux réseaux sociaux ? Gabriel ouvre le débat avec les autres élèves de 3e.
Aujourd'hui, on va parler de pourquoi les jeunes sont si addicts aux réseaux sociaux et pourquoi cette génération semble-t-elle autant dépendante de ces plateformes. Est-ce que vous pensez être accro aux réseaux sociaux ou pas ?
Moi, personnellement, je pense pas non plus être addict parce que c'est pas un truc où je me dis « Oh non, j'ai pas regardé mon téléphone aujourd'hui, comment je vais faire ?» On se dit pas ça, on se dit juste « Bon, j'ai rien à faire, je vais regarder mon téléphone. » Mais après, je suis pas addict. Je suis pas addict dans le fait que j'ai pas tant de temps que ça sur mon téléphone, je trouve. Enfin, je pense à peu près 2 heures par jour, ça va.
Moi je suis pas du tout accro, j'y vais quasiment jamais. J'y vais jamais en fait, voilà.
Moi non plus, après mes parents m'ont jamais laissé y aller, donc c'est sûrement pour ça.
Je pense pas être addict non plus, mais vu que je m'ennuie assez rapidement, je vais très vite aller sur mon téléphone pour scroller, pour répondre à des personnes. Mais sinon, je dirais pas le nom de la personne, mais quand une personne n'est pas punie de sortie, je vais pas être sur mon téléphone, je vais être dehors avec la personne. En fait, mon temps d'écran, il dépend des jours aussi.
Oui. Toi, tu vas plus sur TikTok, Instagram, YouTube ?
En fait, ça dépend. Parce que du coup, je dois faire les flammes avec tous mes potes sur Snap, donc je passe assez longtemps sur Snap. Mais sinon, je dirais TikTok un peu comme tout le monde, quoi.
Qu'est-ce que ça apporte pour toi, les réseaux sociaux, et en quoi ça t'est utile ou au contraire pas utile ?
Ça me déconnecte un peu quand je suis dans mes périodes où je vais mal ou de quoi, je vais scroller pendant longtemps. Et du coup, ça me déconnecte et du coup, ça me fait un peu du bien. D'un autre côté, où c'est pas utile, ça nous déconnecte et on voit pas ce qui se passe à l'extérieur, quoi.
Ok, et au niveau de l'information, par exemple, est-ce que c'est ici que tu te renseignes ? Et si tu te renseignes ici, comment ça se passe ?
En fait, ça dépend. Il y a des moments où je me renseigne. Par exemple, quand j'étais petite, j'allais sur YouTube et je regardais une vidéo de « C'est pas sorcier ». ça nous apporte des informations.
Et donc ça dépend de où est-ce que tu le regardes et...
Oui. Par exemple, sur YouTube, on peut trouver des choses intéressantes.
Après, personnellement, je trouve que quand je vais sur les réseaux sociaux, j'y vais pas dans l'optique de m'y renseigner. J'y vais juste pour me détendre. Mais si jamais on doit se renseigner... Les réseaux sociaux, ça peut servir, mais habituellement, tu vas plus aller sur des forums internet que sur un YouTube oui. ou un TikTok. Même si YouTube, c'est très bien, mais tu vas pas aller sur TikTok souvent pour t'enseigner, tu vas pas aller sur Instagram. Ouais. Le plus souvent, tu vas sur YouTube ou sur des forums. Tu vas plus aller sur Google, voilà.
Et d'après vous, est-ce que les réseaux sociaux, ça permet de contrôler l'opinion publique ? Par exemple, ça pourrait être de la propagande, par exemple, envers une idée politique ? Puisque à chaque fois qu'on regarde un réseau social, les informations passent en fonction de ce qu'on regarde le plus. Oui. Donc théoriquement, ça contrôle l'opinion pour qu'on ait ces informations-là et pas d'autres informations.
Je ne sais pas si c'est une bonne réponse, mais de nos jours, maintenant, tous les politiciens ou les personnes importantes ont un compte sur des trucs comme Twitter, X. Et du coup, ils publient tous les jours leurs idées. Et du coup, il y a de plus en plus de gens qui les voient parce que c'est plus accessible à leur niveau. Donc, il y a de plus en plus de gens qui adhèrent aux idées de ceux qui postent sur les réseaux sociaux.
Et est-ce que ça permettrait pas aussi d'imposer en quelque sorte des normes, par exemple des normes de beauté, des normes des moments où tout le monde, je sais pas, devrait avoir un chat, où tout le monde devrait mettre telle sorte de lunettes. Ça influence la mode aussi, en quelque sorte.
Déjà, je pense qu'il y a toujours les, comment dire, les micro-tendances qui arrivent. Donc, c'est-à-dire que tu vas avoir quelque chose que tu vas avoir partout pendant un mois ou deux, et tout le monde va le prendre, tout le monde va l'acheter, tout le monde va dire « Oh, ouais, c'est incroyable !» Et après, il y a tout le monde qui va s'en ficher.
Bah, du style, tu sais, samba, la boubou.
Est-ce que ça mettrait pas par hasard certaines personnes mal? Parce qu'en fait, ça nous montre tout le temps un idéal. C'est-à-dire qu'une personne qui va montrer qu'elle est dans un beau jardin, bah, alors que nous, on n'est peut-être pas dans un beau jardin, est-ce que ça va pas nous montrer en fait que le meilleur de cette personne et nous dire qu'en fait, nous, on a une vie vraiment nulle parce qu'en fait, cette personne-là va nous montrer son point le plus merveilleux. Par exemple, je sais pas, ses beaux cheveux. Donc nous, on va avoir l'impression qu'on n'a pas de beaux cheveux, des choses comme ça.
Après, la majorité du temps, comme tu le disais tout à l'heure, les réseaux sociaux, ils vont te proposer des choses que tu as likées, tu as commentées ou des choses comme ça. Si tu likes que des vidéos de, j'allais dire, Maeva Ghennam, je sais pas, enfin, quelqu'un de, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais quelqu'un de, comment dire, qui montre toujours le meilleur de moi-même, regarder ma skincare routine, regarder mon truc, ok. Mais après, il y a toujours, il y a une, quand même une partie saine des réseaux sociaux qu'il faut pas oublier. Bon, la majorité, c'est pas super sain. Mais il y a une petite partie où, genre, si tu te focuses là-dessus, je pense que tu peux avoir ce truc de pas mal de vidéos qui te disent t'inquiète pas, ça va bien se passer et tout. Enfin, il y en a quelques-unes, c'est pas la majorité. J'avoue, c'est pas la majorité, c'est la minorité.
Quoi comme partie, par exemple? Tu parles d'une partie qui ne montrerait pas le meilleur. Tu parles de quoi, par hasard?
Non, je ne parle pas d'une partie qui ne montre pas le meilleur. Je parle d'une partie rassurante qui va te dire, t'inquiète pas, on sait que tout le reste des réseaux sociaux, vas-y.
Mais en fait, tu dis qu'il faut en avoir conscience de ça, justement. Il ne faut pas y aller dessus et se dire que tout le monde est comme ça. Il faut en avoir conscience, justement, que c'est une version idéalisée.
Bah oui, enfin...
Oui et non. Parce que, par exemple, moi, je sais que, par exemple, bon, là, je capte pas, mais si j'ouvre TikTok, je sais que ça va être que des trucs d'équitation de cheval parce que je regarde principalement ça. Et où ça va être des vidéos de mes amis qui postent, des vidéos des gens que je suis. Enfin, ça va être... principalement, ça va être ce que j'aime. Mais si les autres, ils aiment pas, bah, ils auront d'autres choses. Mais je sais que sur TikTok, par exemple, si on like trop de vidéos tristes, mais assez tristes, bah, TikTok va nous envoyer un message pour nous dire si ça va ou pas.
En fait, il n'y a pas que des vidéos où des personnes vont montrer le meilleur de leur truc et tout. Par exemple, Gabriel, c'est l'équitation, mais moi, ça va être des vidéos soit sur les animés, soit sur le dessin. Rien à voir avec des personnes qui se montrent au meilleur d'eux-mêmes. C'est leur dessin.
Est-ce que justement le fait que ça nous montre que des vidéos qu'on a likées, ça nous enfermerait pas dans une espèce de boucle où on voit que ce qu'on a aimé à un moment? C'est-à-dire que si on reste que sur des vidéos où on est triste ou des vidéos de, je sais pas, de personnes dépressives, est-ce que ça va pas nous enfermer encore plus sur nous-mêmes et nous laisser dans cette boucle
de filtre? Après, là, à ce niveau-là, c'est à toi d'aller chercher autre chose à l'extérieur. Faut pas rester que dans son téléphone. Faut aussi penser qu'il y a son téléphone et la vie extérieure. Et quand t'auras découvert des choses dans la vie extérieure, à ce moment-là, tu pourras faire des recherches sur ton téléphone et découvrir des nouvelles choses sur ton réseau social.
Donc, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser, mais de façon modérée.
Exactement.
Couché de soleil, nos filters. Les blogueuses voyages ont pris des couleurs. C'est l'heure où plus personne regarde l'heure, même les réacs ont lâché Twitter. Y'a des pubs idylliques à gogo, couple amoureux teint les noix de coco. L'influenceur version abdo mayo se promène sur la plage pendant que je suis dans le métro. Un jour j'irai en première classe, au quatre coins du club j'irai boire la tasse. En attendant je voyage sur Google Maps, en un clic je suis au Bahamas. Un jour j'irai de Tokyo à Capri, faire du yoga.
Merci Gabriel pour ce débat très intéressant. Les réseaux sociaux peuvent être utiles, mais ils peuvent aussi avoir des effets négatifs. C'est justement ce que va nous parler Cléa avec un sujet important, le harcèlement scolaire et le rôle des ambassadeurs au collège.
Pour commencer, il y aura les définitions du harcèlement scolaire, comme leurs différentes formes. Ça peut être des moqueries et des insultes répétées, des rumeurs ou mensonges pour nuire à quelqu'un. Une mise à l'écart où on exclut volontairement un élève d'un groupe. Il peut y avoir des violences physiques, des coups, des bousculades, etc. Mais aussi du cyberharcèlement, des messages ou des publications humiliantes sur Internet. On va aussi parler des chiffres. Les chiffres principaux sont environ un élève sur 10 qui soit concerné, soit environ 700 000 élèves. 5% subissent du harcèlement grave. Le phénomène est le plus fréquent au collège. J'ai pris comme source le ministère de l'Éducation nationale. Entre 2022 et 2024, plus de 600 poursuites pénales ont été engagées pour harcèlement scolaire. Depuis 2023, plus de 280 élèves harceleurs ont été changés d'établissement pour protéger les victimes. Il y a les engagés contre le harcèlement. Il y a des personnes engagées contre le harcèlement. À l'échelle de la France, il y a le dispositif phare et le ministère de l'Éducation nationale. Dans notre collège, il y a les ambassadeurs harcèlement, les CPE et tout autre adulte. Sur les réseaux sociaux, je prends une influenceuse qui s'appelle Ophénia. Il y a aussi des conséquences. Le harcèlement peut entraîner de la tristesse, de l'anxiété, une perte de confiance en soi, des difficultés scolaires, voire même le suicide dans les gros cas. Il y a des signes, comme une victime qui peut s'isoler, elle peut avoir peur d'aller à l'école, changer de comportement. Mais il y a évidemment des solutions. On peut en parler à des adultes, des profs, des parents. Il ne faut aussi pas rester seul et aider la victime si on en est témoin. Petite conclusion. Le harcèlement n'est pas normal. Il faut en parler et agir pour protéger les élèves. Je vais aussi vous partager mon expérience, car j'ai été harcelée pendant 5 années. Voici une journée type de mes années de harcèlement. Je me levais la boule au ventre en pensant aux moqueries et à l'enfer que j'allais vivre. En arrivant à l'école, j'avais envie de partir et de pleurer. La journée se passait comme ça. Le soir, je faisais comme si tout allait bien, alors que pas du tout. Je vais vous parler maintenant de l'influenceuse Ophénia, que j'ai citée tout à l'heure. Ophénia est une influenceuse qui est contre le harcèlement. Elle a partagé son vécu en tant que harcelée et elle a créé un signe contre le harcèlement qui est le majeur et l'index croisé avec le pouce orienté sur le côté. Elle a été interviewée sur plusieurs plateformes comme Fun Radio. Son signe contre le harcèlement a été jusqu'à l'ONU et a été adopté dans certaines écoles. Elle a appelé un collège pour prévenir un cas de harcèlement pendant qu'elle était en live. Elle est sur TikTok, Instagram, YouTube et Snapchat. Raphaël, maintenant, ouais. As-tu un témoignage à nous apporter en tant que témoin, harceleur ou bien victime ?
J'ai été, entre guillemets, on va dire, harcelée, car au niveau du CM2 et du collège de cette année, on se moquait à cause, malheureusement, quelque chose de rare que j'ai dans mon crâne. J'ai un grain de beauté d'une grosse dimension quand même, on va dire, et mes cheveux ne poussent pas dessus, et j'ai reçu beaucoup d'insultes, de moqueries à ces propos, mais quand tu vois que ça t'arrive quasiment tous les jours, assez régulièrement, t'as des envies ou t'as pas envie d'aller à l'école, quoi. Tu fais semblant d'être malade, mais tu te dis non, je veux pas y aller. Je veux pas y aller. J'ai aussi des questions à te poser. Toi, Cléa, en tant que victime, est-ce que parfois tu te sentais de te dire est-ce que ce monde m'appartient vraiment ? Est-ce que je suis fait pour y vivre ?
Oui, et j'ai surtout des fois pensé à l'irréparable, évidemment. Je pense comme beaucoup d'élèves harcelés. Ça a été très compliqué pendant longtemps, très longtemps, mais au final, avec l'aide de certaines personnes, comme des amis qu'on peut avoir ou tout simplement nos parents, j'ai pu éviter et j'en suis là aujourd'hui.
Et vous, madame, aussi, vous avez eu un problème au niveau de votre scolarité, et est-ce que vous pourriez nous en parler ?
Alors oui, merci Raphaël de poser la question aussi. Je sais plus combien t'as dit Cléa, au niveau du pourcentage d'élèves harcelés, mais c'est quand même assez énorme.
J'ai dit que c'était environ un élève sur 10.
Voilà, un élève sur 10.
Sur du harcèlement grave et soit 700 000 élèves.
Donc c'est beaucoup. Donc moi, j'ai pas eu d'harcèlement grave, mais c'est vrai que du harcèlement, des brimades répétées, etc., on est beaucoup à l'avoir vécu. Et moi aussi, il y a déjà longtemps, puisque moi, je suis adulte, c'est vrai que c'est des choses qui marquent et c'est important d'en parler. Donc merci Cléa pour ta chronique.
Et j'ai aussi une dernière question à te poser. Aurais-tu pour les pourcentages des enfants qui ont commis, ou même des adolescents, je veux dire enfants, mais je peux dire adolescents aussi, qui ont commis l'irréparable?
Non, mais on peut avoir quelques noms comme Lindsay qui s'est suicidée, une jeune adolescente aussi de 17 ans qui a commis l'irréparable sur les rails, et une jeune fille de 9 ans. Il y a une Marion aussi, où sa mère a créé une association.
J'ai eu la chance d'avoir des amis formidables, et je les remercierai jamais assez, de me dire « Eh, tu sais quoi ? C'est des andouilles. Ils font ça parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. » Et d'entendre ces mots, rien que de dire « T'inquiète, Raph, nous, on est là, on va t'aider. Ouais. » Mais déjà, tu sais que t'es pas seul. T'es pas toi contre le monde. Et de se sentir accompagné vers une difficulté, même des difficultés aujourd'hui où t'as des problèmes familiaux, où vous avez des problèmes, je dis n'importe quoi, moi des problèmes de scolarité, d'avoir ces amis qui te disent « T'inquiète, nous on est là avec une tape à Miguel sur l'épaule, bien sûr. » C'est toujours rassurant, on est accompagné, on va dire, c'est pas forcément nos parents, même si eux aussi font un travail de ouf. C'est agréable de se dire qu'on n'est pas seul, quoi. Donc ouais, bonne question Cléa, merci.
Oh bah moi, je suis d'accord avec Raphaël. Hein, le fait d'avoir des amis où on ne se sent pas complètement abandonné de tout le monde, de sentir qu'on a justement un soutien d'amis proches, ça peut sauver même des vies, hein, comme vous l'avez dit. Et merci beaucoup pour cette chronique, Cléa. On va passer à la suite.
On revient maintenant à quelque chose de plus proche de nous. Ici au collège, Sarah va nous présenter un projet original auquel elle participe. Matin Jeans, à toi Sarah.
Matin Jeans est un club du collège. Dans ce club, on est divisé en plusieurs groupes, de 3 à 4, et on nous donne un problème de maths à chaque groupe. L'objectif est de tenir un stand dans une université à Toulouse et possiblement de faire un grand oral du 14 au 15 avril. Notre collège est en collaboration avec un collège de Saint-André, de Saint-Gonis. Eux aussi ont plusieurs groupes avec les mêmes sujets que nous. On se regroupe de temps en temps pour mettre en commun nos idées. Mon groupe a eu le projet intergalactique. Pour vous expliquer en quoi il consiste, je vais vous faire un résumé de ce sujet. On est un commerçant sur une autre planète et nous voulons vendre des produits de Terre. On a un ami, c'est un habitant de cette planète. Il nous dit que la somme des deux pièces consécutives est égale à la pièce suivante. Bon, je vous ai perdu. En gros, la pièce 1 plus la pièce 2 égale la pièce 3. Et la pièce 3 plus la pièce 4 égale la pièce 5. Il est aussi mal vu d'utiliser deux fois la même pièce d'affilée. Donc, toutes les questions qui nous sont posées ont un rapport avec ce système. Matanjin permet de s'initier à la recherche scientifique, car on est confronté à des problèmes différents qu'en cours. Là, on va te donner une technique et un raisonnement à reproduire sur chaque exercice. Matanjin nous demande de créer cette technique avec des questions plus vastes, et donc plus compliquées. On nous demande de réfléchir autrement que d'habitude, et cela permet d'étendre ses horizons. En gros, c'est un peu comme un codeur. À force d'écrire en binaire, il va finir par réfléchir en binaire, car il est habitué à cette nouvelle mentalité. On se retrouve tous les mardis de 13h à 14h. Souvent, pendant ces heures-là, on va faire notre diaporama pour le grand oral. On va, résoudre les questions. Et moi, ce que j'aime bien, c'est justement essayer de trouver des formules mathématiques ou quoi que ce soit, parce que je trouve ça plus marrant que d'avoir le raisonnement déjà fait. J'aime bien trouver des formules. Et voilà.
Donc toi, ce qui t'intéresse, c'est vraiment la recherche scientifique sur ce projet-là.
Oui, oui.
Et est-ce que tu peux nous dire en quoi va consister votre congrès quand vous allez partir? Je crois que c'est en avril.
Oui, c'est le 14 et le 15 avril. Alors, le but, comme je l'avais dit précédemment, c'est de tenir un stand. Donc sur ce stand, on va avoir des affiches sorties de nos diaporamas qui vont être derrière nous, pour vraiment les choses basiques et simples. et un ordinateur avec lequel on a un long diaporama, plus long que celui qu'on va présenter pendant le grand oral. Et le but, c'est de faire que, c'est que les gens, les gens qui vont passer devant nous, ils vont, comment dire, on va interagir avec eux en faisant des jeux sur notre problème. Par exemple, nous, on a chaque pièce avec, qu'est-ce que ça correspond derrière ? Parce qu'on a les pièces, mais chaque pièce correspond à un nombre de zec. Les zec, c'est la monnaie de ce monde. Et du coup, bah, chaque personne, on va... elles vont venir. Et voilà, on va essayer de faire un peu un... En fait, on fait... chacun fait un petit... comme un mini-jeu, on va dire, sur notre sujet. Donc nous, par exemple, on va avoir un jeu de marchand. On va avoir des objets imprimés et... qui devront essayer d'échanger des pièces.
Il y a un côté pratique, puisque vous manipulez des objets. Ouais. Et c'est quoi, ça consiste en quoi, ce grand oral ?
Le grand oral, en fait, de base, il y a deux oraux qu'on peut choisir. Soit dans un amphithéâtre vraiment plus petit, soit dans un grand amphithéâtre. Nous, personnellement, enfin, le but, du coup, c'est de présenter notre projet, ce qu'on a fait, comment on en est arrivé là, et un peu plus expliquer, en fait, les questions et comment on y a répondu. Nous, on a... notre groupe, on a choisi le grand oral parce que justement, comme ça, on pourra durer plus de temps. Puisque vu que ça fait toute l'année qu'on travaille dessus, qu'il y a pas mal de questions et tout, on peut pas le faire en moins de 12 minutes. Et vu qu'en plus, on est 5 sur le projet, bah, faut que tout le monde parle. Et le grand oral, ça nous permet de faire 12 minutes.
Ok, super. Bah, en tout cas, je te souhaite un beau congrès en avril, alors à Toulouse.
Merci.
Merci Sarah pour cette présentation et merci à tous pour vos chroniques et vos interventions. Aujourd'hui, nous avons voyagé entre le printemps, l'histoire, les mathématiques, la politique, les médias, les sujets de société qui nous concernent tous. On espère que cette émission vous a plu et qu'elle vous a fait réfléchir pour cette 4e émission des Ados de la Radio. A bientôt pour la 5e et malheureusement dernière émission du collège. Loutantanel, au revoir, merci et passez une excellente journée.